Présidente de Nordic France.
Oui, magnifique.
Et Nordic Alsace, donc.
Alpes du Sud. D'accord, parce que maintenant, okay, j'ai le département des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
Ah, un CV long comme un jour.
Non, mais ça, c'est... Non, mais alors ça, c'est hyper... Alors, pour info, c'est bénévole. C'est...
C'est pas politique.
Alors... Bah, ça l'est un peu,
quand même,
parce qu'en fait, oui, ce qui est hyper intéressant, normalement, notamment chez Nordic France, c'est que ça m'ouvre des portes. Ça m'a ouvert notamment des portes des conseils d'administration des grandes fédérations nationales, telles que la Fédération française de ski, où je suis au comité directeur, telles que l'Association nationale des maires de stations de montagne. Je ne suis pas maire, mais du coup, je suis grâce à Nordic France au conseil d'administration de la NMSM. Et j'ai demandé tout récemment d'intégrer le Conseil national de la montagne, qui est aussi, je trouve, une organisation qui est hyper intéressante pour l'avenir, parce que finalement, on n'a pas de ministère de la montagne, mais on a le Conseil national de la montagne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est un mandat qui est très, très intéressant, très prenant. Je suis aussi beaucoup en déplacement, donc j'aurai des choix à faire en 2026 si, par... travail et chance, je peux accéder à la mairie de Saint-Chaffré. J'aurai, je pense, des choix à faire parce que je suis amenée à beaucoup me déplacer avec, avec cette présidence-là. Mais c'est hyper passionnant. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'aller à l'extérieur, de voir ce qui se passe et de ramener un peu ce qui se passe de l'extérieur chez nous. Et ça, c'est hyper intéressant.
L'avenir du ski de fond dans nos départements. Alors, on nous dit qu'il y a encore quelques belles années devant nous, mais à quelle altitude? C'est ça la question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Oui, forcément, dans notre département ou dans les autres, hein, de toute façon, hein, c'est pareil pour tout le monde. On y travaille effectivement actuellement. On a de la chance dans les Hautes-Alpes d'avoir quand même des domaines qui sont en altitude, relativement plus haut que d'autres. Je prends l'exemple de Servières, par exemple, le Lot, Crévoux qui est aussi haut. Serre-Chevalier qui peut avoir aussi un peu de hauteur selon les secteurs. Donc il y a des domaines qui sont quand même relativement hauts. Après, bien évidemment, on travaille sur...
Il y en a d'autres qui sont plus compliqués.
Mais il faudra peut-être faire des choix.
On a vu notamment que Bayard cet hiver, ça a été morne pleine, à tel point que le président de l'asso sportif de Bayard s'était interrogé pour la suite sur Alpe 1. Je vous propose de l'écouter, c'est Anton Specioso. Voilà ce qu'il nous a expliqué.
C'est très compliqué parce que l'activité d'hiver n'existe plus. On a ouvert cet hiver trois fois, je crois, avec trois chutes de neige qui n'ont pas duré longtemps. Donc il y a des infrastructures, il y a des personnels, il y a eu du chômage technique. Enfin, bref, c'est très compliqué l'hiver d'avoir une activité ski. Nous, en tant qu'AS, on a décidé de faire des propositions et on est prêt à ouvrir une discussion avec la ville, avec la délégation de service public, avec l'association qui gère le plateau de Bayard, pour pouvoir réfléchir sur quoi faire l'hiver pour que vive toute l'année le plateau de Bayard.
Et justement, dans les projets, dans les idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire cet hiver, l'hiver prochain ?
Il y a plein d'activités qui sont possibles. Il y a des activités qui sont liées au golf, il y a des activités qui ne sont pas liées au golf, mais à la découverte de la nature, du plateau. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place. Et je pense que c'est l'avenir. Puisque avec le réchauffement climatique, malheureusement, les chutes de neige, elles se raréfient. Donc, il faut vraiment abandonner l'idée de faire du ski de fond l'hiver à Bayard.
Voilà. Abandonner l'idée du ski de fond l'hiver à Bayard.
Ouais, de toute façon, il y aura des choix à faire, ça c'est évident.
Ah ben, il
faut
être
réaliste.
On peut
pas aller à l'encontre de la nature, hein, oui. C'est une évidence.
Moi, je suis passionné un petit peu par les hauteurs de neige et compagnie. Pendant 40 ans, j'ai vu la moyenne de couche par couche sur Briançon, c'était 2,73 m de neige. Et là, il y a eu 2-3 hivers là, 4-5 ans, c'était correct. Mais la moyenne baisse, par exemple cette année on est un petit peu plus d'un mètre, l'année dernière aussi un petit peu, 2,73 m, 1,10 m on va dire. Elle, là, ça fait une sacrée différence. Donc évidemment, il suffit d'aller aux pistes de fond de Villers-Saint-Pancras ou des Alberts pour voir qu'il y a un problème. Une année où il y a eu beaucoup de neige en altitude. Quand on voit la quantité de neige qu'il y a actuellement sur le Galibier, mais nous, on a eu de la pluie, bien évidemment.
Oui, mais il y a une question d'économie aussi. Enfin, bon, ici, dans les Hautes-Alpes, on a quand même l'altitude qui est un peu pour nous. Moi, je suis originaire des Hauts-de-Vosges, hein, de la Bresse. Et cet hiver, ils n'ont rien fait.
Non.
Ils ont une
non,
piste.
Non, ils vont pas tourner, hein.
Difficilement, ils ont fait quasiment skier les gens sur la pluie. Quoi. Le Jura, c'est pareil. C'est une région qui est faite pour le ski de fond. Aller faire du ski de fond, enfin, Marine, tu connais sûrement sur les plateaux jurassiens, c'est quelque chose de fabuleux. Ben, cette année. Hein, pareil, le Vercors, on parle aussi du Vercors.
Ouais, d'ailleurs, on a, au niveau national, les chiffres ont baissé justement à cause, entre guillemets, des Vosges et du Jura, ouais. Qui normalement me ramènent un peu plus de 2 millions de chiffres d'euros, de chiffre d'affaires à eux deux. Et donc là, bah, j'ai baissé de 2 millions mon chiffre d'affaires national. Donc oui, ces questions se posent. Alors j'ai été me balader dans les Pyrénées cet hiver.
Eux ont eu un gros manque de neige.
Alors eux, ils ont eu un gros manque de neige, mais c'est pas nouveau. Et en fait, ils y travaillent depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont réfléchi à des solutions de pouvoir faire tourner un domaine nordique s'il n'y a pas de neige, de pouvoir le transformer très rapidement en domaine multi-activité, activité de pleine nature. Et en fait, ce qui se passe, c'est que et Philippe a raison, le nerf de la guerre, c'est l'économie. Déjà qu'un domaine, domaine nordique est déficitaire, si vous enlevez la neige, ce à quoi les gens viennent pour la neige,
ben
en fait,
hein,
finalement,
c'est
comment, hiver, comment leur faire payer ça. L'accès à un site sans neige.
Sans neige.
Et en fait, les Pyrénées, alors, il y a des configurations particulières sur certains domaines où il y a une seule porte d'entrée et ils font payer l'accès au site. Que vous fassiez de la luge, de la raquette, que vous soyez piéton, skieur ou autre activité, vous payez 10 euros l'entrée du site.
D'accord.
Voilà. Et en fait, ils ont fait un système où ils peuvent modifier la signalétique très très rapidement en hiver, été, et pouvoir proposer des balades en VTT, d'autres activités estivales. Mais par contre, c'est évident qu'on va avoir la problématique foncière aussi, parce que finalement, l'hiver, avec de la neige, ben, on peut, avec la loi montagne, se balader un peu de partout. On est en train de travailler actuellement sur les servitudes, parce que ça, je pense que dans quelques années, ça sera fini. Mais avec la neige, on est tranquille, on passe où on veut, hein. Finalement, c'est ça. Hein. Mais avec du hors-neige, qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que ce sont des champs cultivés ? Est-ce que ce sont des exploitations agricoles ? Voilà, la question ne sera pas la même. Donc on y travaille. Et voilà, on est conscient de ça. Et
gros enjeux. Hein.
C'est des énormes enjeux. Ouais. Et puis on travaille avec l'État aussi là-dessus, justement, parce qu'il compte sur nous pour qu'on puisse... essayer d'avoir une vision à long terme sur l'avenir des vallées, en fait.
Mmh. On va faire un saut dans le département, hein, pour changer un peu. C'est quoi la différence entre, attention, hein, le PDESI et le CDESI ?
Alors, il n'y a pas de différence.
Voilà, c'est parce que moi,
j'ai
tourné le problème dans tous les sens.
Mais
pourquoi il y a le PDESI et le CDESI ?
Eh bien alors, le PDESI, c'est le plan départemental c'est le plan départemental des espaces, sites et itinéraires. Et le CDESI, c'est la commission.
D'accord.
Départementale.
Donc c'est la commission
qui
travaille sur le.
On réunit une commission départementale qui est réunie et qui travaille sur les itinéraires ou les activités qu'on peut faire rentrer dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires.
On va dire que c'est un label, quoi.
C'est un label, oui, c'est un label, et c'est surtout ça. Là, on l'a retravaillé d'ailleurs pour qu'on ait moins de quantité mais plus de qualité. C'était ce que je souhaitais aussi, qu'on ait des véritables sites d'activité de pleine nature mais qui soient reconnus. Enfin, je veux dire, on a un terrain de jeu qui est juste incroyable dans le département des Hautes-Alpes. Il faut qu'on arrive à le mettre en avant, et on a travaillé là-dessus justement dans le nouveau plan départemental.
Donc, c'est ça qui gère par exemple les randos, par exemple, tout ce qui est aussi sur les spots en eau vive. Tout ça, c'est géré par ça.
En fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, le département était, on va dire, une chambre financière des demandes de subventions. Donc, en gros, on recevait une demande de subvention pour tel ou tel itinéraire piéton en montagne qu'il fallait subventionner pour refaire le passage.
Bien balisé, etc.
Bien balisé, etc.
Nettoyer.
Donc les subventions, on les donnait sans spécialement aller vérifier ce qui se passait.
Ah oui.
Et voilà. Et quand je suis arrivée au département, j'ai dit ok, c'est très bien. Par contre, ça nous fait énormément de kilomètres d'itinéraire piéton. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait plus de qualité que de quantité. Et en fait, c'est ce qu'on a mis en place actuellement, ce qu'on est en train de mettre en place à travers un appel à projet sur justement la qualité des sites, qu'ils soient effectivement accueil, base d'accueil nautique pour le kayak, qui est très réputé chez nous, le VTT, la randonnée. Donc on travaille là-dessus sur un appel à projet et pour faire monter en qualité, monter en gamme ces sites d'activité.
Et alors qui fait la demande? C'est quoi?
C'est les gestionnaires en fait. C'est les gestionnaires.
D'accord.
Voilà.
Okay.
C'est les gestionnaires qui ont la compétence. Par exemple, à Serre-Chevalier, c'est le SIVM.
D'accord. Et vous vérifiez après que le travail est bien fait ou...
Moi, l'avantage, c'est que je fais beaucoup de sport. Donc, j'arrive à aller vérifier sur le terrain. J'arrive à aller vérifier pendant mon entraînement ce qui se passe sur le territoire.
Parce que quelquefois, moi, je fais quelques randos et je me suis souvent posé la question. Je dis, il pourrait quand même faire un effort parce que les panneaux, ils sont arrachés. C'est pas bien fait.
Ouais, c'est vieillissant surtout.
Voilà. Et donc, ça
c'est en cours. Mais c'est long, vous savez ce que c'est.
J'imagine. Tu voulais dire quelque chose, Philippe?
Sur le sujet de la randonnée, de la promenade.
Ah, oui, je voulais me dire sur le sujet du SIVM, parce qu'il était élu au SIVM aussi.
Oui. Mais il y a une Arlésienne aussi dans la vallée.
Ouais.
Elle s'appelle la Voie Verte.
La Via Guidale.
Ah, ça, c'est un truc. Ça date. La première fois qu'on en a parlé, je pense, il y a au moins 15 ans.
Ah, c'est pas mal. Ouais.
En fait, c'est un joli projet. Pour l'instant, projet.
Qui part d'où à où?
Qui part de Briançon, d'ailleurs. Il y a déjà une partie
qui est faite.
La partie de Briançon était faite.
Et après, il faut monter jusqu'au-dessus du Monnetier-les-Bains, le Cassé, etc.
Ouais.
Et alors là, c'est un truc qui dure depuis des années. C'est un beau... Sur le fond, c'est quand même un sacré beau projet. Mais ça m'a l'air... Enfin, je sais que c'est compliqué, hein, par rapport au fait que, par exemple, vous traversez, vous faites 100 mètres dans un pré,
ouais.
Vous avez 10 propriétaires différents.
Bah, c'est ça la problématique.
Oui.
Un truc de fou. Moi, j'ai fait des visites techniques à l'époque.
Il faut des droits de passage, etc.
Il y a un moment, le seul passage où on pouvait passer à la salle des Alpes, il faisait 60 cm de large parce qu'il y avait le canal, le machin, le truc. Alors, les voies vertes, allez, n'importe où en France, moi je reviens du Midi. Et si vous voulez faire du vélo de Sainte-Maxime à Saint-Tropez, tranquille.
Au bassin d'Arcachon, il y a des voies vertes magnifiques.
Partout. Hein. Non, je reviens toujours à mes Vosges, mais là, ils ont supprimé les trains, des lignes de train. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place?
Des voies vertes.
C'est magnifique. Là, on a quand même un truc qui traîne beaucoup, alors qui a un coût. Mais là, c'est pareil, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui est mou. Quoi, hein.
À que ça a l'air compliqué tout ça. Hein. Tu parles de 60 cm de large. Donc, il y avait des gens, de gauche ou de droite, qui ont refusé de donner 22 cm.
Oui. Oui,
non,
mais c'est
démoralisant.
C'est vrai que...
Non, c'est aberrant, ça. Alors que c'est extraordinaire.
Et, bien sûr, c'est extraordinaire.
Et que tout le monde en profiterait, mais à l'idée que quelqu'un passe dans son champ un tout petit peu, surtout quand les gens sont compétents, ils ne vont pas passer au milieu du champ, ils vont se mettre en bordure.
De toute façon, c'est tracé.
Le tracé est beau. Enfin, bon.
Surtout qu'actuellement, il est déjà, entre guillemets, un peu en état.
Oui, il y a des tracés naturels.
Mais c'est vrai que c'est... Alors, à chaque fois qu'on le dit, ça en énerve beaucoup. Mais c'est dingue, c'est une Arlésienne, quoi. C'est quelque chose qu'on entend parler depuis des années et des années. Alors justement, avec Arnaud Murgia et la Comcom, on a pris un peu les choses en main. On a proposé, et c'est passé dans la Clarée d'ailleurs, à la Via Clarée. Il y a la Via Clarée qui va être faite au même titre que la Via Guisane.
Oui.
Et en fait, l'intérêt après, c'est de connecter les deux.
Ouais,
au départ de Briançon, monter dans la Clarée, et de Briançon, monter dans la Guisane et pouvoir faire les deux. On a proposé aux différents maires de la Clarée, et vous imaginez bien leur réponse, de prendre la maîtrise d'ouvrage, que la Comcom prenne la maîtrise d'ouvrage de la Via Clarée pour que ça avance plus vite. Et les maires de la Clarée, bah, bien évidemment qu'ils ont dit « Ah super, bah, oui, on fait ça ». Et là, on y travaille actuellement, c'est la délégation à la Comcom. On y travaille actuellement, on y travaille bien. Alors, il va y avoir aussi des difficultés, hein, parce que le terrain bouge et c'est quand même assez compliqué. Et la Via Guisane.
Il y a un autre problème.
Et la Via Guisane, on a posé la question, vous imaginez bien qu'on a posé la question aussi. La réponse n'a pas été positive, et donc du coup on a dit, écoutez, gardez la Via Guisane dans vos propres compétences, qui sont d'ailleurs celles du SIVM. Hein. C'est le SIVM qui a la gestion de la Via Guisane. Mais en fait, ce qui est dommage, et on va s'en rendre compte le 1er juin, parce qu'il y a l'inauguration de la partie Briançon, Briançon, ça, je ne sais pas si vous êtes passé dernièrement, mais ça a très très bien avancé, c'est magnifique.
Pourtant, de Bricorama un terrain très accidenté.
Ah oui, oui, non, mais allez voir, vraiment, ouais. Je vous le conseille. De Bricorama à. À la maison, il y a quoi? Il y avait une maison, il y avait des jeunes catholiques là, non?
Oui,
comment
en bas.
Comment ça s'appelle là? Oui. Oui, voilà, en bas de. En
oui,
bas
c'est
McDo,
superbe.
Là.
Non, non.
C'est, tout a été refait et en fait ça s'arrête à ce moment-là.
Ouais.
Et après, effectivement, derrière, il y a des difficultés sur le passage, mais ça c'est pareil. Enfin, je veux dire, faut discuter avec les gens, faut y aller, faut leur expliquer, faut leur montrer l'intérêt, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis au pire, si ça fonctionne pas, il y a d'autres moyens aussi.
Oui, voilà. Mais je me souviens du alors que j'étais élu, le préfet du moment, qui était un copain à Hollande, je ne sais pas si tu te rappelles, nous avait dit, mais tout ça c'est bien joli, mais je sens que votre projet n'est pas assez porté politiquement. Alors ça c'est un truc qui m'est resté.
Donc tu te rends compte, enfin dire des choses pareilles au niveau d'un préfet pour un chemin qui doit faire 1m50 de large.
Non mais
faut arrêter de déconner.
Non et puis c'est dans l'air du temps surtout. On nous dit roulez en vélo. Oui, bah, oui. Ok, bah, faites-nous une voie pour rouler en vélo.
Rouler en vélo dans la Guisane sur la nationale, faut.
C'est vrai. Courage, c'est, hein. Non, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Comme dans l'air du temps, il y a les Jeux Olympiques. Alors, oui. On va en parler un peu des JO hein, quand même. T'es impliqué dans le sport, on le sait. Donc en ligne de front pour les JO, j'imagine, 2030.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, nous, c'est vrai qu'on est tous contents ici. Hein. À chaque fois, on pose la question à nos invités. Et on est tous contents d'avoir les JO en 2030. Ça va
heureusement,
être un joli coup de projecteur pour le Briançonnais, on est d'accord. Alors,
et pour tout le département. Hein,
et oui, oui, bien sûr. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'on est là, dans le Briançonnais.
Non, mais monsieur le sénateur a dit que ce n'était pas les JO du Briançonnais, que c'était les JO de tout du département des Hautes-Alpes. Voilà.
D'accord. On avait déjà présenté.
Très bien, le sénateur Thierry.
Bien sûr, Jean-Michel. Jean-Michel, si je vous écoute, magnifique. On avait déjà présenté un dossier il y a quelques années, et donc cette question est-ce que le département, la région, etc., va s'inspirer de cette expérience menée à l'époque par Jean-Marc Passeron sur les écrins. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu étais né, hein?
Oui,
tu étais né. En d'autres termes,
la balle, oui, oui.
Non, c'est la balle. C'était la petite vanne. En d'autres termes, est-ce que Jean-Marc Passeron apportera son expérience à l'organisation des JO 2030, c'est la question que j'avais envie de te poser, Marine, mais ce jour.
Je peux vous dire que Jean-Marc Passeron est très impliqué dans cette candidature, bien évidemment.
Je m'en doutais un peu.
Parce que effectivement, il a mené la candidature de Pelvoux en 2018. Pelvoux 2018. La seule différence qu'on a là actuellement, et je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience, c'est que cette candidature est portée par une région.
Et oui, on est d'accord.
Ce n'est pas une candidature qui est portée par une commune. Mm-hmm. C'est pas comme Albertville, par exemple.
C'est une vraie nouveauté.
Cette candidature est portée par deux régions.
Deux régions.
Donc, quand les gens disent région sud.
Oui, oui. Alors.
Quand les gens disent, ça va nous coûter.
Beaucoup
les
d'argent.
Impôts vont augmenter. C'est la région qui porte, en fait. Et puis derrière, vous avez des spécificités particulières avec le CIO. S'il y a une infrastructure qui est montée et qui est démontée après les JO, c'est le CIO qui prend en charge. Donc derrière, il y a plein de spécificités aussi sur l'organisation de ces JO. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que ça sera... Je pense on le saura en juillet. Bon, a priori, il n'y a pas trop de suspense.
Mais
que ça sera un très, très bel événement et que ça mettra en lumière, encore une fois, effectivement, le Briançonnais, mais surtout le département des Hautes-Alpes et toute la région sud.
Mmh. Et la France.
Et encore une fois, la France, d'ailleurs.
En espérant qu'on sera moins frileux qu'avec les JO de Paris, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que majorité hein, des Français, enfin en vue de ce qu'on peut entendre des médias, majorité des Français qui ne seraient pas forcément ravis d'avoir les JO de Paris.
Oui, il faut arrêter. Je crois que les médias font plaisir.
Je fais une parenthèse, Marine est troisième vice-présidente du conseil départemental avec la responsabilité, entre autres, de Terre de Jeux.
Oui.
Donc ça a un rapport avec les Jeux Olympiques de Paris, c'est ça?
De 2024, ouais, tout à fait.
Et qu'est-ce que ça veut dire, quoi, alors, en clair?
Ce qui a été intéressant, qui va être bientôt d'ailleurs fini, hein, 2024, au mois de juillet, c'est que Terre de Jeux, ça permettait de rapporter les Jeux Olympiques de Paris chez nous. Parce que finalement, Paris, c'est pas loin, mais c'est loin, pour certains, ou alpins.
Eh ben oui.
Voilà. Grâce à ce label Terre de Jeux que le département a pris, certaines communes d'ailleurs dans le département l'ont pris aussi, mais le département a voulu prendre ce label Terre de Jeux. C'était pour pouvoir faire des événements labellisés Terre de Jeux à destination des Hauts-Alpins et pouvoir faire vivre les Jeux Olympiques de Paris à tous les Hauts-Alpins à travers des événements, à travers Terre de Jeux et les centres de préparation aux Jeux. Ouais. Ça nous a quand même permis de sortir le mur d'escalade à Briançon.
Ben voilà.
Voilà.
J'allais en venir.
Ça nous a permis aussi de financer la rampe de lancement de kayak cross à l'Argentière-l'ABC, qui est unique en France.
Ouais.
Et c'est chez nous, dans le département des Hautes-Alpes. Donc, c'est quand même des programmes qui... Alors, certaines mauvaises foi vont dire « Allez, encore un truc qui va coûter cher, qui sert à rien. » Ben non, ça sert pas à rien. Voilà. Ça sert pas à rien.
Là, tu fais référence à des gens dont les papas disaient « ça va coûter cher », le grand-père disait « ça va coûter cher », et l'arrière-grand-père disait « surtout, vous faites rien, s'il vous plaît ».
Alors, tu disais que...
Il y en a marre.
Ouais, mais il y a un problème quand même, il n'y a rien, Sacha Vray.
C'est vrai, on est déçus. On parlait des coûts, donc des JO, tu disais que les impôts ne vont pas augmenter. D'accord, mais est-ce que vous avez prévu déjà pour 2030 les primes que vous allez donner ? Non, je vous dis ça parce que...
Oui, j'ai entendu ce matin que...
On a l'air d'avoir maîtrisé le coût sportif des JO de Paris, mais par contre, le coût social, on ne l'a pas maîtrisé du tout. Non. Tout le monde y va de son petit chantage au blocage, enfin, ceux qui peuvent bloquer, hein, parce que je vous le dis tout de suite, hein, si vous êtes boulanger et que vous décidez de faire grève au moment des JO, il n'y a personne qui viendra vous donner une prime. Alors, effectivement, il y a la SNCF, les Aiguilles du Ciel, la RATP, la police. Moi, je pense que la police, la gendarmerie, ça paraît quand même logique.
Plus cohérent.
Les routiers, les médecins de la PHP, ça peut se comprendre. Les pompiers, le personnel de la Tour Eiffel. Ah ben oui, parce qu'il va y avoir plus de monde. Ça, c'est quand même très étonnant. Les éboueurs de Paris, voilà. Alors, c'est quand même des primes qui sont quand même qui s'envolent. Hein. Les éboueurs de Paris, ils ont des primes de 600 à 1900 euros. J'arrive pas à comprendre. Enfin, je sais pas, Marine, ce que tu en penses. Moi, j'ai du mal à comprendre.
Je pense que tu l'as dit dans
le concept de la prime. En général, la prime est donnée plutôt après un événement, quand les résultats sont tombés, etc. Là, je sais pas. Moi, je me dis, les éboueurs, ils font un temps, enfin, un horaire par jour. Je pense pas que ces horaires vont augmenter. Et quand bien même ils augmentent,
ils une heure ou deux heures de plus, façon.
Sera payé en heure sup. Donc j'ai du mal à comprendre le concept.
Moi, j'ai entendu effectivement ce matin, et je pense que tu l'as dit aussi dans tes propos, sur certaines professions, je le comprends, je le conçois. C'est quelque chose que je conçois tout à fait. La sécurité, le secours, je le conçois. Mais sur d'autres professions... Je comprends pas ces gens-là. Enfin, je veux dire, on peut pas être fier d'être français, on peut pas être fier d'accueillir ces Jeux Olympiques chez nous, en France. Est-ce qu'on peut pas donner un peu plus juste pendant cette période, parce qu'on est fier d'avoir ces Jeux et parce que montrer une belle image de la France, parce que finalement, les Jeux Olympiques, c'est pas tant le sport. Les Jeux Olympiques aussi, c'est l'image que va renvoyer, en espérant que ça se passe bien, l'image que va renvoyer l'organisation au monde entier. C'est la culture, c'est plein de choses.
Et puis c'est tout simplement le rêve, enfin, de rêver dans un monde qui est dangereux.
Bien sûr, mais
c'est épouvantable.
Mais c'est français, ça. Je trouve que c'est je ne sais pas comment ça se passe dans notre pays, non ?
On espère qu'il y aura plus de solidarité pour les jeux d'hiver, là.
Ouais, après, oui, mais par contre, moi, là, je me renseignerai sur comment ça se passe dans d'autres pays. Est-ce que dans d'autres pays, il y a aussi ces demandes-là ? Est-ce que quand il y a des organisations dans les pays qui ont reçu dernièrement les Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a aussi ces demandes-là ? Mais ces demandes-là qui sont finalement portées, on sait par qui, hein, on sait d'où ça vient, hein, c'est les syndicats qui mettent en avant ce droit-là. Mais,
après, il y a les spécialistes. Hein. C'est vrai qu'au niveau de la SNCF et de la RATP, on n'attend pas les JO pour avoir des grèves et des demandes, etc. C'est un grand classique. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et il y en a qui emboîtent le pas. Je vais vous faire écouter un témoignage que j'ai entendu. C'était mardi matin. J'étais en train, j'étais en voiture, et je zappais et je tombe sur RMC. avec les grandes gueules. Il y a un monsieur qui bosse à Marignane pour une entreprise qui gère les personnels à mobilité réduite, qui les accompagne dans les avions, vous savez. Et voilà ce que expliquait ce monsieur. Écoutez.
C'est ça, agent PMR, nous accompagnons les personnes à mobilité réduite dans les avions.
D'accord. Vous travaillez pour quelle société, pour qui?
Alors c'est pour une société privée qui est située à l'aéroport.
Donc, à l'aéroport de Marignane.
C'est Alizia. Ça, effectivement.
Et vous envisagez une grève?
Effectivement, nous envisageons une grève parce que c'est le moment idéal.
Voilà, ah, c'est le moment idéal.
C'est le moment idéal.
Ben oui, parce que vous, quel est le rapport avec les JO?
Les personnes à mobilité réduite, nous pouvons bloquer les personnes directement.
Vous pouvez bloquer les handicapés,
c'est beau. Mais c'est pas l'handicapé, nous pouvons bloquer un avion, une personne qui marche pas dans un avion et qui est dans un avion pour débarquer. Ben si on ne débarque pas à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben l'avion ne peut pas décoller.
Donc vous bloquez l'handicapé.
Ah ben voilà,
donc, c'est magnifique.
Bloquer la personne en situation
d'handicap. Je suis désolé pour la faute.
Voilà. C'est beau,
magnifique.
C'est beau, c'est frais.
Non, parce que ce témoignage, c'est tout à fait en fait ce qui se passe. Et pourquoi vous faites grève? Parce que c'est le bon moment.
Ah voilà.
C'est complètement malhonnête. C'est complètement malhonnête.
Non, c'est fou. Bon, en même temps, c'est peut-être le fait d'être facilement en grève qui donne envie de le faire aussi.
Oui. Là, tout le monde.
De faire grève en France, c'est facile. Hein.
CGT, médaille d'or.
Ah oui, oui. Quand on voit le débat à la SNCF. Où ils ont détourné, ils, les responsables, mais pas trop les syndicats, puisque vous avez entendu les syndicats dire « Ah ben, on n'en revient pas, on prend tout ce qu'on veut, puisque la retraite, ils gagnent par rapport à la réforme de l'année dernière. »
Oui,
et bon, moi, j'ai entendu un gars de la CGT, enfin, j'ai vu à la télé, qui disait « On n'en revient pas, mais... » Alors, c'est chouette, hein, c'est formidable. Bon. Est-ce qu'à Lille-la-Mer, est-ce qu'à Innsbruck?
Exactement, c'est la question.
Est-ce qu'à Pékin?
Est-ce à Pékin ou... Ah ben à Pékin, c'est un peu différent, ouais.
Pékin,
c'est un peu différent. Le gars qui...
À Sochi.
Je pense qu'ils connaissent pas à Pékin, ils connaissent pas le mot grève.
Voilà. Non, mais n'empêche que, bon, j'ai cité d'autres pays, là, où ça s'est très bien passé.
Non, mais il y a un opportunisme qui est quand même assez hallucinant, là, sur les JO, et c'est vrai, t'as raison. On devrait quand même être content, essayer de comprendre.
Et puis d'avoir un peu d'enthousiasme, arrêtons.
Ouais.
Mais c'est français, c'est très, très français, ça.